France Culture.
C'est le journal de la rédaction. Julie Paco, bonjour.
Bonjour Marina, bonjour à tous. La déclaration de vengeance des États-Unis en Syrie, où l'armée américaine a mené de nombreuses frappes la nuit dernière et tué plusieurs membres du groupe État islamique après la mort de deux militaires américains la semaine dernière. La mobilisation des agriculteurs se poursuit dans le sud-ouest, malgré le fonds de soutien de 11 millions d'euros annoncé par le Premier ministre pour répondre à la crise de la dermatose nodulaire contagieuse. Réponse jugée trop timide par la coordination rurale. Un début 2026 sans budget, après l'échec de la CMP, la commission mixte paritaire hier, c'est une loi spéciale qui permettra d'assurer la continuité de l'État le mois prochain. On revient sur ces blocages budgétaires avec notre invité, le président de la commission des finances à l'Assemblée et député France Insoumise, Éric Coquerel. Au moins 5 membres du groupe État islamique tués dans des frappes américaines en Syrie. Des frappes qui font suite à l'attaque survenue la semaine dernière dans la région désertique de la Palmyre, au cours de laquelle 2 militaires américains et un interprète ont été tués. Plus de 70 positions auraient été visées par l'armée américaine. Ce sont donc de très lourdes représailles, d'après les mots de Donald Trump, Mohamed Erami.
Des frappes d'ampleur menées par les États-Unis ce samedi en Syrie. Washington annonce avoir touché plus de 70 cibles de l'État islamique, principalement dans le centre et l'est du pays. Selon le commandement américain, plus de 100 munitions de précision ont été tirées avec des avions F-15, des A-10, des hélicoptères Apache, mais aussi des lance-roquettes HIMARS avec un soutien aérien jordanien. Ces frappes visent notamment la région de Palmyre, où une attaque le 13 décembre attribuée à l'État islamique avait tué 2 soldats américains et un interprète civil et blessé plusieurs autres militaires. Elles ont également touché les zones désertiques autour de Raqqa et Deir ez-Zor, où des cellules dormantes de l'EI restent actives. Le Pentagone parle d'une riposte ciblée, pas d'une nouvelle guerre, tandis que Donald Trump évoque des représailles très sérieuses. De leur côté, les autorités syriennes ont réagi en affirmant qu'aucun sanctuaire ne sera toléré pour l'État islamique sur le sol syrien et ont insisté sur la nécessité d'une coopération internationale et régionale pour empêcher toute reconstitution du groupe. Ces frappes rappellent que malgré la chute du califat, l'État islamique reste actif dans le désert syrien où les États-Unis maintiennent environ 1000 soldats.
Mohamed Erami, correspondant de France Culture en Syrie, des frappes auxquelles a participé la Jordanie, affirme ce matin son armée dans un communiqué. Tandis qu'aux États-Unis, ce sont des centaines de milliers de documents, des PDF et des photos qui viennent d'être déclassifiés, issus de l'enquête sur le criminel sexuel décédé et ami des puissants Jeffrey Epstein. Une loi votée par le Congrès américain le mois dernier impose au gouvernement américain de publier l'intégralité des documents, ce qui prendra finalement plusieurs semaines, annonce le ministère de la Justice. Or, plusieurs clichés montrent Bill Clinton, l'ancien président américain, en compagnie de femmes, des photos abondamment relayées par l'équipe de Donald Trump. L'entourage du président américain cherche à se protéger, réagit le chef adjoint de l'ancien président démocrate, qui appelle à la publication de l'ensemble des documents. Une partie des agriculteurs toujours mobilisés ce samedi. Les barrages routiers persistent sur les axes routiers du sud-ouest du pays. La 64 reste en partie fermée entre Toulouse et Bayonne. Blocage aussi sur la 75 en Aveyron ou encore dans l'Ariège. Malgré les appels à la trêve de Noël lancés par l'exécutif et une partie des syndicats, après l'annonce faite hier par le Premier ministre de monter à 11 millions d'euros le fonds de soutien pour les exploitants en difficulté face à la dermatose nodulaire contagieuse. Mais le compte n'y est pas pour les syndicats. Les annonces sont assez faibles, estime ainsi François Valrette, secrétaire général de la coordination rurale. Il est indispensable que l'État se mette à réfléchir sur le protocole d'abattage, dit-il chez nos confrères de France Info.
Ce qu'il faudrait, c'est que vraiment on se mette autour de la table, que les scientifiques se mettent autour du labo pour trouver quelles sont les bêtes qui sont contagieuses, parce qu'il n'existe toujours pas de test qui permet de savoir quelles sont les bêtes qui sont malades et contagieuses, et c'est ce qu'il faudrait pour pouvoir n'éliminer que les bêtes. Alors c'est pas que les bêtes qui présentent des symptômes, c'est que celles qui sont contagieuses, y compris si elles n'ont pas de symptômes. C'est pour ça qu'il faut qu'ils développent des tests qui soient fiables et à un coût acceptable pour qu'on puisse détecter les bêtes qui sont contagieuses même si elles n'ont pas de symptômes. Sur cette base-là, moi ce que j'ai dit à mes structures départementales sur lesquelles j'ai pas de contrôle, elles sont indépendantes, c'est que le rendez-vous était donné au 5 janvier. Le combat il va être long parce qu'il y a d'autres sujets. Donc moi je leur propose de faire une pause pendant les vacances de Noël, de se reposer parce que la mobilisation elle va se poursuivre. Au 5 janvier, nous verrons ce que le ministre propose. Et Et si effectivement il n'y a pas d'avancée, et bien on se remobilisera à partir de début janvier. Mais vous savez, la mobilisation, la manifestation, c'est fatigant, physiquement, nerveusement. Donc, s'ils veulent faire une pause, et qu'ils fassent une pause pendant les vacances, qu'ils profitent aussi de ces fêtes pour se ressourcer. Vous savez, l'agriculture, on est mobilisé 365 jours par an pour travailler. Donc, s'ils ont besoin et s'ils veulent, bien sûr qu'ils peuvent se faire une pause pendant les vacances. Après, ils sont libres de leur choix. Ce sont des structures départementales indépendantes. Ouais. Et je sais déjà qu'il y en a qui ne souhaitent pas se démobiliser, pour qui c'est extrêmement important de continuer à mettre la pression sur le gouvernement.
Une pause, car le combat des agriculteurs va être long, prévient donc François Valrette de la coordination rurale. Car à la contestation vis-à-vis de la gestion de la dermatose bovine par le gouvernement s'ajoute celle contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, dont la signature a été reportée au 12 janvier prochain. Côté gouvernement, eh bien c'était épineux dossier agricole s'ajoute à un autre dossier brûlant, celui du budget. Faute d'accord sur le projet de loi de finances en commission mixte paritaire hier, le Premier ministre dégaine donc une loi spéciale pour permettre d'assurer la continuité de l'État. Elle sera présentée à lundi lors d'un conseil des ministres exceptionnel pour être examinée par les députés dans la foulée, puis envoyée au Sénat pour adoption avant Noël. Un texte court afin de lever les impôts notamment et garantir le financement de l'administration comme en fin d'année dernière. Donc bonjour Éric Coquerel.
Bonjour.
Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Alors avant ce conseil des ministres exceptionnel, lundi, Sébastien Lecornu conseillera les responsables des forces politiques représentées au Parlement. Quel message votre groupe politique compte-t-il faire passer ?
Tout simplement que CMP non conclusive, c'est-à-dire la réunion entre les sénateurs et les députés, marque l'échec de ce budget, de ce gouvernement, c'est-à-dire qui a voulu imposer un budget minoritaire qui correspond absolument pas aux attentes des Français, ni en termes de relance de l'investissement nécessaire, ni en termes de relance du pouvoir d'achat, pour en réalité protéger tous ceux qui depuis 2017 sont protégés par le macronisme, c'est-à-dire les ultra-riches. Voilà, c'est un peu le résumé de ce budget, et ça correspond évidemment pas aux nécessités économiques et sociales. Donc, pour nous, c'est un échec. Et la deuxième chose, c'est que à partir de là, le message que nous allons passer, c'est de dire au gouvernement qu'il ne soit pas tenté début janvier de passer cette fois-ci par la force, c'est-à-dire soit le 49-3, soit les ordonnances, parce que je crains que ça redevienne d'actualité début janvier.
Cet échec, c'est bien la responsabilité du gouvernement derrière cet échec, comme l'estime d'ailleurs la majorité sénatoriale.
Oui, je le pense. C'est-à-dire que j'ai bien compris que le gouvernement essaye de faire peser sur les assemblées la responsabilité de l'échec. Ça a été le cas quand l'Assemblée nationale, je vous rappelle, a rejeté par 404 voix contre une, c'est absolument historique, le budget. Ça a été le cas avec le Sénat, même si je ne partage pas les vues de la droite sénatoriale, vous l'imaginez bien. Mais la vraie responsabilité, elle remonte en réalité à l'Élysée. Elle remonte à juillet 2024, quand le président de la République a maintenu des gouvernements minoritaires, n'a pas voulu entendre le choix des électeurs, et depuis, finalement, essaye de continuer à imposer sa politique qui est minoritaire dans le pays. Ça peut pas marché. Et donc, on se retrouve dans cette situation par sa faute. Et vous savez, comme moi, que nous pensons qu'il aurait fallu revenir aux urnes, ici, de préférence à des élections présidentielles, pour que le peuple choisisse le cap économique qu'il souhaite, et non pas qu'on soit dans cette situation d'incertitude.
Mais Éric Coquerel, cette loi spéciale n'est qu'une rustine. La France ne peut pas passer l'année 2026 sans projet de loi de finances. L'an dernier, on avait estimé à 12 milliards d'euros le coût d'avoir 6 à 8 semaines sans budget. C'est ce qu'estime la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Alors, comment vous envisagez le mois de janvier, la reprise des débats? Quel chemin est possible, finalement?
Oui, c'est bien gentil, mais elle n'a jamais réussi à prouver ces 12 milliards. Et moi, par contre, j'ai un courrier du ministre Lescure qui date d'octobre et qui estime qu'en réalité, la loi spéciale, puisqu'elle ne reproduit pas tous les crédits de l'année précédente, mais les crédits indispensables à l'État, en réalité, pourrait rapporter 5 milliards au budget de l'État. Donc, vous voyez, j'appelle le gouvernement à ne pas rejouer comme la dernière cette dramatisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Mme Borne disait qu'il n'y allait plus avoir de carte vitale, des choses comme ça, des choses absolument ineptes. Donc, je l'appelle à ne pas rejouer cette dramatisation pour faire pression sur le Parlement, pour vite adopter un autre projet de loi. La loi spéciale, effectivement, ce n'est pas l'idéal, on est d'accord, mais c'est quand même un budget qui reproduit le budget de l'an dernier. Et c'est en essayant d'affoler les gens, en faisant pression, que le gouvernement commet finalement une faute et une erreur vis-à-vis de la situation économique. Donc, elle peut pas durer toute l'année, mais d'un autre côté, on n'est pas non plus dans une situation où le 31 décembre, on se retrouvera sans budget, c'est absolument faux.
Alors, l'autre priorité, en début d'année prochaine pour votre mouvement, ce sont bien les élections municipales. La France Insoumise part seule au premier tour dans une majorité de communes, alors que le PS et les écologistes ont conclu plusieurs alliances dans des grandes villes, parfois avec les communistes. La France Insoumise cherche-t-elle, Éric Coquerel, à faire perdre la gauche à travers ses aventures en solitaire?
C'est assez amusant d'inverser les choses, parce que je vous rappelle que c'est le Parti Socialiste, il y a maintenant plusieurs mois, qui l'a répété sans arrêt, qui a expliqué qu'il ne voulait pas d'alliance avec France Insoumise, au premier et même au deuxième tour, donc ça j'attends de voir. Donc la situation est venue de ce côté-là, et elle est valable pour toutes les élections, c'est ce qu'explique le Parti Socialiste. Donc nous, on peut pas nous demander de nous rejeter comme ça, et à la fois de ne pas nous présenter. Donc on va se présenter, et ça tombe bien parce qu'on va se présenter sur des programmes de rupture, ce que ne feront pas les socialistes, que ne feront pas les socialistes et leurs alliés, y compris, c'est vrai, quand ce sont des mairies. Moi, je le vois, par exemple, dans ma circonscription, Saint-Ouen, Saint-Denis, où ce sont des socialistes qui gèrent, j'allais dire, de manière comme la droite, en réalité, leur ville. Donc voilà, France Insoumise va essayer de proposer, comme on le fait au niveau national, des radicalités concrètes, des nouvelles municipalités, une nouvelle façon de voir la démocratie, l'écologie, les services publics, et c'est normal qu'on se fasse entendre, et vous allez voir qu'on va avoir des excellents résultats.
C'est entendu. Merci beaucoup, Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances à l'Assemblée, et merci également à Loïse Guérin pour la préparation. Le Parlement, donc, qui après le budget aura un autre projet de loi sur son bureau le mois prochain, celui visant à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le texte est prêt, d'après Anne Le Hénaff, la ministre déléguée à l'intelligence artificielle et au numérique, qui veut aller vite, dit-elle, dans un entretien aux Parisiens. Bonjour Lou Momège.
Bonjour Julie.
Alors le chef de l'État a fait de cette interdiction une priorité, alors qu'une précédente loi instaurant une majorité numérique à 15 ans promulguée en juillet 2023 n'avait pu être mise en œuvre en raison d'un blocage européen. Ce nouveau texte, Lou, peut-il aboutir à une véritable interdiction?
Eh bien, cela semble compliqué déjà parce qu'il faut proposer un texte qui respecte le règlement européen sur les services numériques sans tomber dans la privation de liberté. Et puis surtout, c'est une mesure difficile à faire respecter. C'est ce qu'on constate en Australie, explique Anne Cordier, professeure en sciences de l'information et de la communication. L'Australie qui a effectivement interdit les réseaux sociaux au moins de 15 ans il y a une dizaine de jours.
Le politique sait pertinemment que les contournements sont aisés. Alors, on pense toujours aux VPN, etc., mais on reste quand même beaucoup aussi sur des systèmes déclaratifs. Vous avez évidemment la possibilité de modifier l'âge déclaré pour l'utilisation du réseau. En Australie, aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux des jeunes qui commentent les publications des hommes politiques en mettant « bonjour, toujours présent », etc. Donc on sent en fait une jeunesse qui, par les réseaux sociaux, continue en fait d'exister et de revendiquer aussi une place.
Et même si les enfants et adolescents respectaient une telle mesure, un autre problème se pose. Que se passe-t-il une fois qu'ils ont 15 ans?
Le principe même de l'éducation, c'est l'autonomisation. C'est un processus. Et là, on ne pense pas à un processus. On nous dit juste « avant tel âge, on ne peut pas, après on pourra ». Et il n'y a aucun accompagnement véritable, structuré et sur une longue durée qui est proposé.
Pour Anne Cordier, en fait, il faut avant tout s'attaquer aux plateformes et à leur régulation si on veut permettre une approche plus saine des réseaux sociaux aux plus jeunes.
Lou Momège. À 4 jours de Noël, on revient sur une tradition apparue en Italie au XIIIe siècle, celle des crèches vivantes, qui rencontre un immense succès en Espagne et plus particulièrement en Catalogne. L'une des plus anciennes se trouve près de Barcelone, à Corbera de Llobregat. Pendant la période de Noël et jusqu'à l'épiphanie, 250 volontaires participent chaque soir à des représentations. Henri de Laguérie s'est promené au milieu de cette crèche.
Au pied d'un immense rocher, des bergers et leurs chiens se réchauffent autour d'un feu. Un peu plus loin, on aperçoit un forgeron dans une ferme, des paysannes à trier le blé. La vie d'un petit village catalan se déroule sous nos yeux, le tout dirigé par Victor González.
Tu es vraiment à l'intérieur d'une crèche. C'est comme si on avait devant nous, sur une table, une crèche géante dans laquelle les gens peuvent se promener. C'est une expérience immersive dans un cadre très réaliste. Ça donne un spectacle très authentique.
Tout au long du parcours de 700 mètres, les scènes de la nativité se mêlent aux scènes du quotidien. Et dans cette crèche qui mobilise 250 volontaires parmi eux, Rosa, fichue en laine noire sur les épaules, sa mère, sa fille et sa petite-fille participent à la crèche.
J'ai 62 ans. Quand la crèche a commencé, j'étais dans le ventre de ma mère. J'y participe depuis bébé. Et aujourd'hui, je suis fière de voir ma petite fille en faire partie.
Outre la naissance de Jésus, on assiste à l'arrivée des rois mages ou à la fuite en Égypte. C'est très fidèle au texte de la Bible, mais pour Xavi, c'est avant tout une jolie sortie culturelle.
Je ne suis pas venu pour un motif strictement religieux. Pour moi, c'est un spectacle culturel. C'est une tradition qui dépasse les croyances.
Alors même si elles sont plus petites, on trouve ce genre de crèche vivante dans une cinquantaine de communes en Catalogne.
Henri de Laguéry, correspondant de France Culture en Catalogne. La météo avec un temps pluvieux attendu sur la plupart des régions cet après-midi et les cumuls de précipitations pourraient être conséquents sur les Cévennes. Prudence, les maximales affichent 9 à 14 degrés en général, jusqu'à 18 degrés dans le sud. C'est la fin de ce journal préparé avec M. Le Chili, Sofiane Actib à la technique.